Oui, ben, Wokem Auditis, Ciné Domino, etc., etc. Tout ça pour vous rappeler que Radio Libertaire vit principalement grâce au soutien financier de ses auditeurs et de ses auditrices. Et à mon avis, dans quelques mois, on enlève le principalement pour le remplacer par uniquement. Les cartes d'auditeurs sont en vente à la librairie du Monde Libertaire au 145 rue Amelot. De Soutsène, magazine de créatures radiophoniques, nous sommes ensemble pour une heure et demie. Une heure et demie, c'est le temps pour que le téléphérique C1 fasse trois allers-retours entre Créteil-Pointe-du-Lac et Villanova. Une heure et demie, c'est le temps que 1200 personnes visitent la Tour Eiffel. Une heure et demie, c'est le temps que la RATP réalise 37 000 euros de bénéfices. Une heure et demie, c'est le temps que le paludisme fasse 107 victimes de par le monde et que la dengue fasse 2 victimes de par le monde. Précisons-le, pour le paludisme, ce sont majoritairement des enfants. Mais on finira bien par s'intéresser au vaccin et le chercher quand on se rendra compte que les moustiques qui propagent le paludisme sont en train de remonter de l'Afrique vers l'Europe. De Soutsène, bonjour, quelques petits. Je me souviens. Je me souviens qu'Anatole Deblaire, l'exécuteur des basses œuvres de la République, est mort en 1939 d'une crise cardiaque sur un quai de métro alors qu'il se rendait à son travail pour couper des têtes, disait-il, ça m'embête, couper la tête d'un condamné. Mais Je ne me souviens pas qui a été alors requis pour le remplacer au levier de la guillotine. Je me souviens de la statistique qui avait circulé à une époque sur ce qu'on n'appelait pas encore les réseaux sociaux. 80% des cacahuètes mises à disposition des consommateurs dans les bars recélaient des traces d'urine. Le chiffre pouvait changer, mais la focalisation se faisait toujours sur traces d'urine et aucune autre pollution. Je me souviens du nom du retraité tabassé par des voyous dont le visage tuméfié avait fait la une du JT de TF1 en avril 2002. Paul Voise. Mais ça ne me sert à rien. Et je me souviens aussi du visage de Jean-Marie Le Pen qualifié au second tour de la présidentielle 2 jours après. Bien plus flippant. Je me souviens qu'on a réussi à me vendre comme une innovation écologique, le bec verseur en carton sur les paquets de sucre, simple doublure de l'emballage, alors qu'en fait, on m'a juste arnaqué pendant des années avec des becs verseurs en plastique ou en métal. De même que certains paquets se vantaient d'un emballage compact sans m'avouer avoir vendu jusqu'à présent 20% de vide pendant 25 ans. Je me souviens que pendant que tombe la pluie et que tout le monde est à l'abri, ben y a mon ami Pierre qui est sous la gouttière, pêchant du poisson pour toute la maison. Je me souviens de « Où t'habites ? Dans ma bite ? Quelle rue ? Rue de mon cul ? Ton adresse ? Dans tes fesses ?» Je ne me souviens pas de tous les « Je me souviens » numérotés de Georges Perec. Je ne sais d'ailleurs plus s'il y en a un ou non qui parle de la reine d'Angleterre. Je me souviens de « Pas de fêlée chez Lustucru ». Je me souviens, à chaque fois que le train dans lequel je suis redémarre après un arrêt en gare, que bêtement, Jacques était resté en rade sur le quai où il était descendu fumer une cigarette et il avait dû attendre 2 heures le train suivant. Alors, à chaque fois qu'Esther descend du wagon pour prendre l'air et conspuer les fumeurs qui descendent aussi pour le lui empester, j'ai une petite frayeur quand retentit le signal sonore du départ. Je me souviens de la mention « Ne pas utiliser les toilettes pendant l'arrêt du train en gare ». Je me souviens de « I, E, Ars, Ex, O, Pi, Us, Bi », les communes de France aux noms les plus courts, « Luxe, Us, Buc, Pi, Aise, qui est d'ailleurs aussi un palindrome, salut Jean-Marie, Gap, Blou, Laz. La prochaine fois, je vous ferai les noms les plus longs, Saint-Germain, La Croix, La Motte, Obailly, Aumont. Je me souviens de « Soudain, un inconnu vous offre des fleurs », c'est ça l'effet Impulse. Je me souviens que l'escalier de la station Place des Fêtes fait 118 marches. Je me souviens d'une charade à tiroir dont la solution était « Lac, ô Médie française ». Je me souviens de l'aveugle qui chantait dans la rotonde des correspondances sous la cour du Havre à Saint-Lazare. Il chantait du piaf et il chantait faux. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. En boucle, entrecoupé d'un « Merci, monsieur, dame, bonne journée », quand il entendait choir une pièce de 1 franc dans son escarcelle. Oh putain, qui utilise encore de nos jours le mot escarcelle ? Je me souviens du coup de vieux que j'ai pris en bas d'un escalier du métro à République. J'étais en bas des marches quand arriva une jeune femme souriante, un bébé dans son porte-bébé, une valise à la main droite. Je m'avançais vers elle, mélange de galanterie et reliquat de séduction, mon sac à l'épaule, prêt à lui offrir mes muscles sexagénaires, quand je l'entendis me proposer « Vous voulez mon aide, monsieur ?» C'est bien élevé, mais c'est vexant. Je me souviens que pour la mort de Giuseppe Pinelli, défenestré d'un commissariat en Italie en décembre 69, la conclusion de la commission d'enquête fut « malaise actif ». Un jour, on m'expliquera. Je me souviens de Jo, chanteur d'opéra. Non. Opéra, la station de métro, pas le Palais Garnier, couloir de la ligne 7, direction Aubervilliers-la-Courneuve. Il chantait du rock et de la variété, et sur un panneau devant lui, il était indiqué qu'il avait été choriste de Johnny Hallyday.
Avant-hier bêtement, j'ai relu le grand môme, j'ai traqué mon enfance au fil des pages jaunes. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Dans un coin de grenier, j'ai voulu sans vergogne et sans billet refaire mon voyage en Sologne. Mais j'ai bien trop lu. Trop lu de livres pour les grands. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes livres d'enfants. Hier matin, je m'embarque pour un pèlerinage vers mes 15 ans blottis dans leur petit village. Le cœur battant le long d'un sentier d'aridelle, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Le cœur battant le long d'un sentier d'aridelle, j'attends Buffalo Bill sur un coin de margelle. Mais j'ai bien trop vu. Trop vu de palais formidables. Adieu, que je suis déçu, déçu par mes châteaux de sable. Aujourd'hui je te parle comme à une étrangère, mon aimée d'autrefois, mamie, mon écolière. Et te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. Te disant bonjour, je voudrais tant et tant te dire que notre amour a encore 18 ans. Mais j'ai bien trop couru, couru les filles de passage. Adieu, que je suis déçu, déçu par les dames trop sages. Demain je blanchirai à l'ombre d'un sapin, de routine en regret, de regrets en refrain. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Et j'essaierai encore une dernière fois de refaire à rebours mon long chemin de croix. Mais je n'aurais jamais pu, jamais pu apprivoiser le temps. Adieu, je suis déçu, déçu, que je suis décevant.
Henri Tachon, j'ai relu Le Grand Maulne, vous comprendrez ce choix musical d'ouverture avec la sélection de Sophie tout à l'heure. Si je vous dis Sophie, si je vous dis Ariel, etc., c'est que vous vous doutez que pour un premier samedi du mois, effectivement, oh, je me souviens quand j'étais môme à l'école, il y avait soit les rédactions avec des thèmes imposés, imaginez la suite de l'histoire de machin chose étudié en classe, décrivez un objet de votre cartable ou décrivez la maison de vos rêves, et puis il y avait les textes libres où on pouvait écrire ce qu'on voulait, raconter ce qu'on voulait. Et ben aujourd'hui, effectivement, dans Dessous de scène, c'est la formule texte libre. Alors ici, les studios, à vous les studios.
Les studios, bonjour. Voilà, Sophie est de retour parmi nous, et après une prolongue absence au goût de Nicolas et de nous. Voilà. Donc j'ai vu que tu avais quelques petits livres avec des superbes choses à nous dire.
Oui, bonjour, ça fait longtemps, je crois que la dernière fois c'était en mars ou avril, ça fait très longtemps. Je suis très contente d'être venue, bonjour à tous.
Voilà, moi je suis revenu avec Philippe Forcioli et Patrick Denis. Je suis en train de terminer le livre. On est à la fin des Jurassiennes. Elsa ?
Alors, je reviens avec toujours les poèmes à dire choisis par Daniel Gélin. Et qui seront accompagnés de quelques pensées de Pierre Perret.
Et donc, Joëlle.
Alors, j'ai appris 4 articles des journaux italiens, articles d'hier, regroupés en un seul texte, qui parle de la longévité du gouvernement Meloni, qui hier est devenu le gouvernement plus longeve de l'histoire de la République italienne, et deuxième en toute l'histoire d'Italie après le régime de Mussolini, et les critiques que font ces 4 articles.
Merci. Sophie, à toi.
Ok, très bien, je vais commencer. Donc, ça fait longtemps que je n'étais pas venue. Aujourd'hui, je reviens avec mon format du début, avec un thème et des extraits de livres autour de ce thème. Là, aujourd'hui, j'ai choisi les livres qui ont marqué mon enfance. Il y a des livres qui changent une identité, et il y en a quelques-uns, parce que j'en ai lu beaucoup. Une autre fois, j'avais déjà lu un des extraits du livre Le Lion, qui était le premier qui m'avait fait pleurer, c'était le thème. Et là, c'est des extraits de livres qui ont marqué, qui ont forgé mon identité. Je vais commencer par des extraits assez courts du livre Le Grand Maulne. Vous l'avez peut-être lu, d'Alain Fournier, qui a été publié en feuilleton d'abord en 1913 dans la Nouvelle Revue. Donc c'est pour rappel l'histoire d'Augustin Maulne, qui à l'occasion d'une noce à laquelle il participe par hasard, tombe amoureux d'une jeune fille qu'il ne connaît pas, et pendant tout le roman, il la recherche. C'est complètement magique, c'est complètement éthéré. Il essaie de recréer ce moment. Et moi j'aime beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup le piano et je suis quasiment convaincue que ce livre est pour quelque chose. Donc voilà, deux très courts extraits. Et donc le premier dit « Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait, jusqu'à la nuit. On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, pensa-t-il. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. » Donc là, je vais vous raconter, c'est une espèce d'épopée, il part et puis il arrive par hasard dans une noce à laquelle il n'est pas du tout invité et il se lie aux gens. Et donc là, c'est la rencontre avec la jeune fille qui va passer son temps à rechercher dans le livre et pour recréer ce moment-là. Il n'y arrivera jamais. Donc il arrive dans une immense maison. Une porte de cette salle à manger était grande ouverte. On entendait dans la pièce attenante jouer du piano. Maulne avança curieusement la tête. C'était une sorte de petit salon parloir. Une femme où une jeune fille, un grand manteau marron jeté sur ses épaules, tournait le dos, jouant très doucement des airs de ronde ou de chansonnette. Sur le divan, tout à côté, 6 ou 7 petits garçons et petites filles rangés comme sur une image, sages comme le sont les enfants lorsqu'il se fait tard, écoutaient. De temps en temps seulement, l'un d'eux, arc-bouté sur les poignets, se soulevait, glissait par terre et passait dans la salle à manger. Un de ceux qui avaient fini de regarder les images venait prendre sa place. Après cette fête, où tout était charmant mais fiévreux et fou, où lui-même avait si follement poursuivi le grand Pierrot, Molne se trouvait là, plongé dans le bonheur le plus calme du monde. Sans bruit, tandis que la jeune fille continuait à jouer, il retourna s'asseoir dans la salle à manger et, ouvrant un des gros livres rouges épars sur la table, il commença distraitement à lire. Presque aussitôt, un des petits qui était par terre s'approcha, se pendit à son bras et grimpa sur son genou pour regarder en même temps que lui. Un autre en fit autant de l'autre côté. Alors ce fut un rêve, comme un rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu'il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano près de lui, c'était sa femme.
Merci.
Pour le second livre, j'ai choisi des courts extraits du Vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, qui était un roman très court que je vous invite vraiment à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, ou voire à relire, qui a été écrit à Cuba entre 1950 et 1951, publié en 1952, qui a eu le prix Nobel de littérature en 1954. Et donc, pour rappel, qui raconte le combat entre. Alors, on dit espadon pour les vieilles versions, mais dans la version anglaise, c'était pas un espadon, c'était un marlin. Donc c'est pas exactement la même chose, c'est un énorme poisson. Le poisson fait la taille du bateau, de la barque, du pêcheur. Donc c'est un vieux monsieur qui est très pauvre, ça fait des jours et des jours, je crois 84 jours, je crois qu'il n'a rien pêché, et il est pauvre, c'est une catastrophe. Et là, il trouve un énorme poisson, et pendant tout le livre, il se bat contre le poisson, littéralement, il essaie de le ramener, parce que c'est la plus grosse prise de sa vie, de toute sa vie. Donc c'est une histoire de combat homme-nature, mais bon, on a tous parfois des scènes, moi je me rappelle de m'être battue avec une imprimante pendant des heures, enfin, on a toujours des moments où on va s'acharner, et là, sa vie est en jeu, littéralement. Et donc là, il a réussi à attraper cet énorme poisson qui fait, comme je vous l'ai dit, la taille de son bateau, et il est blessé de partout par la corde qui lui a blessé les mains, et les requins l'ont attaqué une première fois. Et donc là, les requins l'attaquent encore à nouveau. Mais à minuit, le combat recommença. Cette fois, le vieux savait que cela ne servira à rien. Il avait contre lui une véritable meute. On ne voit rien d'autre que la trace des ailerons dans l'eau et la traînée phosphorescente de ces requins que ces requins laissaient chaque fois qu'ils se jetaient sur le poisson. Le vieux cognait au hasard sur des têtes, il entendait les mâchoires craquer, la barque oscillait sur des dos. Le vieux résistait avec désespoir et un ennemi qu'il entendait et devinait seulement. Soudain, le gourdin lui échappa, quelque chose s'en était emparé. Alors, il décrocha la barre du gouvernail, la prit à deux mains et se mit à cogner dans tous les sens. Mais les requins se pressaient contre la poupe, tantôt l'un derrière l'autre, tantôt ensemble. Ils s'élançaient sur le poisson, arrachant des morceaux de chair que l'on voyait briller à travers l'eau quand ils se retournaient pour revenir à la charge. Un dernier survint, il s'attaqua à la tête. Le vieux comprit que tout était fini. Il brandit la barre et l'abattit sur la mâchoire même du requin, qui était comme coincé dans les cartilages de la tête du poisson. Il cogna deux fois, trois fois, dix fois, la barre se rompit. Il continua à cogner avec le morceau cassé. Il le sentit entrer dans la bête, déduisant de cela qu'il était très pointu. Il frappa encore, le requin lâcha prise et se tordit. C'était le dernier de la meute. Il ne restait plus rien à manger pour personne. Le vieil homme respirait avec les plus grandes difficultés. Il avait dans la bouche un goût bizarre, ferreux et douceâtre, qui l'effraya beaucoup sur le moment, mais c'était assez peu de choses. Voilà, c'est un petit aperçu. Et puis, là, je vais vous dire, souvent, les débuts de livres sont très chouettes. Et là, c'est la fin. C'était controversé. Les gens se demandaient, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Enfin, je vous laisserai le livre. Les dernières lignes du... C'est très, très court. Hein, c'est quatre lignes. Dernière ligne du livre dit... Donc, il est revenu à terre avec un bout du poisson ou pas. Je vous laisserai lire. Dans la cabane, là-bas... Tout en haut, le vieux s'était endormi. Il gisait, toujours sur le ventre. Le gamin, assis à côté de lui, le regardait dormir. Le vieux rêvait de lion. Voilà pour le verme et la mer.
Merci.
Je vais passer la main à Ariel.
Alors, je vais lire deux petits textes de Philippe Sully. Un nouvel espoir nous inonde le cœur parce que voici des femmes en voie de libération, d'elles-mêmes et de nous-mêmes. Comprendre cette lutte, elle n'est qu'à son début. Est-ce que c'est elle qui butera la haine? Bouteront-elles les haines hors de nous? Car elle crée la haine des corps, la haine des cœurs, la haine des esprits. Heureux les enfants qui vont naître de vous, car elles auront devant eux des champs énormes à traverser pieds nus. À cause de vous, ils sauront reconnaître la beauté du mensonge. À cause de vous, tous les démons de leur tête seront chassés. Femmes, ne trichez plus avec les hommes. Hommes, ne trichons plus avec les femmes. Et la vie s'équilibrera, s'éclairera autour de la flamme de liberté et de vérité. qui est la mère de l'amour, la fille de la création, la femme, la flamme de toute une vie. Deuxième texte. Si vous n'étiez pas le soleil, alors c'est un souvenir, une pensée, une caresse, une infinie douceur, une petite pause juste à côté du bruit. Chuchote la liberté entre vos doigts, c'est une poudre bleue, une poussière, un sable fin. C'est nu pied que je danse et que tu es nu, et je suis pauvre, et tout est simple comme un beau jour, comme une nuit piquée d'étoiles. Il fait l'amour, une cascade, il fait l'amour, un cri profond. J'aime tout. Entendez, vous, toi, et tu elle, entendez-vous, ce n'est pas dans le cœur ni à l'esprit, c'est dans le corps et ni à l'âme, c'est tant de larmes, tant de rires réunis, c'est un beau bruit qui nous chuchote, j'aime, vous. Écrit en automne 1977, Patrick Fossoli.
Si vous n'étiez pas le soleil, alors c'est un souvenir, une pensée, une caresse, une infinie douceur, une petite pause juste à côté du bruit. Chuchote la liberté entre vos doigts, c'est une poudre bleue, une poussière, un sable fin, et c'est nu-pied que je danse, et tu es nu, et je suis pauvre, et tout est simple comme un beau jour, comme une nuit piquée d'étoiles. Il fait l'amour, une cascade, il fait l'amour, un cri profond. J'aime tout. Entendez-vous, toi, tu, elle, entendez-vous, c'est pas dans le cœur ni à l'esprit, c'est pas dans le corps et ni à l'âme, c'est tant de larmes et tant de rires réunis, c'est un beau bruit doux chuchote. J'aime vous.
Le poème choisi par Daniel Gélin est un poème « Chant dans le vent » écrit par Marie Noël, qui est dédicacé à Yves Gérard le Dantec. Alors, avant de le lire, juste anecdote personnelle pour le mythe concernant Daniel Gélin veut qu'il ne se soit pas du tout inquiété sur concernant sa fille naturelle, Maria Schneider. Or, on Or, ce poème prouvera le contraire, parce que quand ce recueil est sorti, non seulement Daniel Gélin en profitait pour reconnaître officiellement Maria Schneider comme étant sa fille, et en même et Maria Schneider commençait à être entraînée dans la drogue à ce moment-là. Donc, ce poème va prouver, montrer l'inquiétude de Daniel Gélin. Combien il aimait sa fille autant que ses autres enfants, vraiment aucun favoritisme, et combien il s'inquiétait, combien il avait peur qu'elle meure d'overdose. Le vent emporte au loin sa fille qui pleure. Le vent va la cacher, loin dans son pays. Le vent que la terre et le ciel ont trahi fuit sans terre ni ciel, fuit vers sa demeure. Il fuit parmi les collines effrayées, par les blés tourmentés, les seigles. Il fuit. En vain, la petite église agenouillée sur les chaumes se voue à prier pour lui. Il fuit les prés, l'étang, la lande. Il s'enfonce dans la grande mélancolie au long soir où nul n'est entré derrière les bois noirs, où se perd l'écho sans donner de réponse. Il fuit où ne sait plus personne. C'est là, quelque part dans une angoisse qu'il traverse, c'est là que tout bas, plaintivement, il berce sa fille qui va mourir du mal qu'elle a. C'est là que d'une haleine pas entendue, il caresse, il chante avec un cri fermé, il endort à mille voix sa fille perdue, dont le chagrin jamais ne sera calmé. Mais voici des chasseurs entre les feuillages, pour chercher le nid du vent où ils sont partis. Ils sont montés haut sur le plateau sauvage, où meurt le sentier qui n'a plus de petits. Ils veulent aller prendre en la solitude le secret du pays âpre. Mais le vent, farouche, le vent, de toutes ses mains rudes, leur barre l'espace autour de son enfant. Il oppose à leur marche les mains hurlantes, il retourne leur route, il dresse contre eux un mur désespéré d'ailes violentes, part, au loin s'appelle et revient plus nombreux. Il pousse les bois sur eux, il fonce, crie, leur jette aux yeux les ifs, les buissons de houx, il refoule avec les branches en furie les aventureux visages à grands coups. Et leur chemin aveugle perd pied, chavire, le vent fuit. Il emporte à travers le temps sa fille dans son manteau qui se déchire, sa douleur chérie où le soir pleure tant. Il fuit, épars, il fuit. Nul ne le retrouve, nul n'arrive jamais au nid qu'il défend. Au loin de la terre et loin du ciel, il couve sous un soupir la longue mort de son enfant. Ô vent pâle, grand vent de mon pays triste, veux-tu pas en pleurant m'aller perdre aussi comme un petit oiseau sans nom qui n'existe que très peu dans un silence loin d'ici? Veux-tu pas m'aller cacher? Je suis en fuite. Je chantais dans un bois noir, mais le sentier des chasseurs s'est mis soudain à ma poursuite. Ils prétendent me voir le cœur tout anqueté. Ils veulent s'emparer du nid de mon âme, mais nul ne le trouvera, peut-être un seul. Ils entendront la pie en l'air qui réclame beaucoup de place autour de tous les tilleuls. Ils s'égayeront par là de chansons et d'autres, mais nul n'atteindra le lointain battement de celle qui n'a pas de frère, la nôtre, celle douce entre les douces tristement. Celle qui tremble trop pour être entendue, si tendre qu'un seul qui ce soir remuerait le feuillage où palpitante elle s'est tue, d'un regard, d'un seul à peine, la tuerait. C'est ma petite fille qu'on m'a brisée, que le sanglot du vent me rapporte ici, celle qui n'est ce soir jamais apaisée, et qu'en vain je calme en mon cœur obscurci. Ah, ne laisse plus personne approcher d'elle, vent sauvage. Attends qu'elle ait un peu dormi. Plus personne. Entoure-la de sombres ailes. Plus personne, ô vent, surtout pas un ami. Ne laisse plus personne rompre ce somme où se plaint tant d'ombre, où tant de rêves à peur. Ah, plus un ami surtout. Rien n'est lourd comme le pas trop léger d'un ami sur le cœur. Chasse tous les chemins hors de sa détresse, et le ciel, et les nuages. Mais mon ami, lui si doux, écarte-le d'une caresse qui loin, loin repousse et retient à demi. Prends-le dans ton souffle et l'implore, et l'entraîne par les pays grands pour qu'il ne passe plus, plus jamais sur le seuil où j'endors la peine de ma fille en pleurs qui n'a pas de salut. Où, pauvre nourrice vaine, je murmure sur mon enfant que rien ne peut plus guérir, un air à voix lasse, entrecoupé, obscur, pour aider le temps long qu'elle passe à mourir. Ce poème est extrait de Œuvre poétique, édition Stock. Merci.
Des heures que tu l'attends, t'as mal aux os, t'as mal au dos, tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud, et tu trembles, c'est pas parce que t'as froid, et tu l'attends, le salaud. Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent, tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit kepa. Oh, oh, tu voudrais la sentir déjà au creux de tu le vois venir de loin, c'est ton soleil qui revient avec sa sale petite gueule d'enculé. T'es sûr que ce mec-là, il va t'arnaquer, mais déjà tu flippes comme un chien de peur qu'il te dise qu'il n'a rien. Et quand il tend sa merde avec mépris, tu vas même jusqu'à lui dire oh merci. Tu voudrais la sentir déjà au creux de ton bras, oh la femme de ceux qui n'en ont pas. Tu cours dans une salisette, et là pour toi c'est la fête. Et là avec l'eau de la cuvette, tu prépares ta petite dinette. Oh, et quand enfin tu plantes ton pieu dans ton bras devenu noueux, et que le rouge se mêle au blanc, c'est la fin du tourment. Tu la sens maintenant au creux de ton bras. Oh, la femme de ceux qui n'en ont pas. Et tu piques du zen dans la rue, et déjà tu te souviens même plus qui t'étais avant, du temps où t'avais des couilles, où t'étais fier, du temps où t'avais même des rêves. Et tu piques du zen dans la rue, j'ai comme envie de te botter le cul, mais j'ai bien trop peur de te casser en deux, tellement que t'as l'air d'un petit vieux. Vieille ta femme, elle est trop vieille pour toi.
Ah. Et maintenant, autour de Joëlle.
Ah oui. Comme j'ai dit, pratiquement, c'est un texte pris da 4 articles de journaux. Les journaux en question sont 4 et je les recommande à tous parce que sont des journaux entre les meilleurs d'Italie. Sont Il Manifesto, Domani, La Repubblica e L'Espresso. Sono 4 articoli che je regroupé in un seul texte. Ieri a Bari, Giorgia Meloni ha célébré la plus longue durée de vie d'un gouvernement depuis 1948, 1413 jours de législature. Au-delà des données déconstruites et d'affirmations évasives mais plausibles contenues dans les documents des 28 pages diffusées par le gouvernement et Fratelli d'Italia, il importe de saisir les messages politiques de cette opération d'autopromotion et vue d'élection de l'année prochaine. L'essence de ces célébrations peut se résumer ainsi. Durer es-tu, gouverner n'est rien, ou encore, mieux vaut vivoter que trépasser. Peu importe ce que vous faites. Ce qui compte, c'est le temps passé à répéter que nous gagnons et que nous gagnerons. Tôt ou tard, la réalité donnera raison obstinée et entonnera l'hymne « Heureusement que Georgia est là ». Une transposition du culte de la personnalité veut j'ai dit à Silvio Berlusconi, qui avait lavé l'image de la droite issue du Movimento Sociale Italiano dans le du néolibéralisme. La fête de Bari a passé sous silence l'échec politique du référendum aux humiliations infligées par Donald Trump et passe par la crise économique engendrée par sa guerre contre l'Iran. Il s'agit plutôt de laisser toute la place aux vérités alternatives présentées comme des lois du destin. Et ces lois sont celles de l'extrême droit lié à l'extrémisme néolibéral, souveraineté, propriété et frontières. En clair, férocité envers les marginaux, austérité budgétaire est reversée au lobby de l'armement. Le poids fort du récit sur la stabilité façon Meloni concerne le travail et l'emploi. On ne parle pas de décès au travail, près d'une milliard rien qu'en 2026. Giorgia Meloni remet en avant une lecture purement quantitative et astraite des données du marché du travail. On évoque un niveau record d'actifs occupés, mais si d'un côté le volume d'emploi augmenté, par ailleurs les salaires réels ont baissé de 8% depuis 2021. Entre 2014 et 2024, l'inflation cumulée est atteinte 20% alors que l'augmentation des salaires n'a compensé cette hausse qu'à hauteur de 14%, autrement dit. Le pouvoir d'achat a diminué. L'emploi progresse donc en termes relatifs, mais les salaires stagnent. C'est ce qu'on appelle la progression du travail pauvre, un record atteint sous le gouvernement de Giorgia Meloni. Selon Eurostat, l'Italie arrive en dernière position en Europe en raison de la faible partecipation des femmes au marché du travail. L'analyse de la propagande, guerre subtile, auteur des chiffres de l'emploi permet de comprendre la stratégie de distorsion à l'œuvre dans bien d'autres domaines, de la pauvreté aux politiques budgétaires en vue de la loi des finances, sans oublier le volet crucial de l'énergie. La faible des factures et du prix des carburants pèsera sur ce qui reste des salaires les plus bas d'Europe. Alors que Meloni et son équipe célèbrent dans les ports de Bari le record de longévité du gouvernement, une réseau de mouvements et d'associations organise une manifestation sur le front du maire du chef-lieu de Puglia. Le jeu en matière de réarmement, les politiques migratoires, les normes de sécurité et l'opposition au salaire minimum ont été vivement critiqués. Les militants dénoncent également les répercussions des décisions gouvernementales sur les salaires ainsi que les difficultés industrielles de la région, faisant explicitement référence à la gestion du complexe sidérurgique de l'ex-Ilva Tarant. Monté sur scène, le dirigeant Antonio L'Emblème a précisé que son état d'esprit n'était que pas à l'IS, mais à la responsabilité. Le maître-mot, la stabilité, n'est pas un simple agrément mais un bouclier, a-t-elle déclaré en vantant le succès du gouvernement, à commencer par le redressement des comptes publics. Passant sous silence les réformes avortées, la première ministre a affirmé que la stabilité elle-même constituait la première grande réforme offerte à la nation. Pendant plus d'une demi-heure, elle a engrené des chiffres concernant l'immigration et l'emploi, le durcissement des peines et la multiplication des nouvelles infractions pénales. En revanche, aucune mention des réformes abandonnées du premierat, renforcement du pouvoir du chef du gouvernement et de la justice, ni de l'Ukraine, des relations avec les États-Unis ou des fronts de guerre. La conclusion était entièrement consacrée à un attaque contre l'opposition. Meloni a rallié les premières et joué sur le contraste « Nous sommes des gens du peuple » alors que la gauche l'a abandonné. Nous avons une liste de choses à faire, a-t-elle ajouté pour conclure, tandis que constituait l'opposition la plus durable, utilisant l'antifascisme comme arme de distraction massive. La foule, l'organisateur évoque plusieurs milliards de personnes, s'est massée dans l'espace réservé au public. Le dispositif de sécurité était toutefois total. Déploiement de forces sur le front de mer de Bari, assez acquis uniquement via les navettes de l'organisation et après contrôle de sécurité. Une double garantie pour que rien ne vienne perturber la fête. Quelques désagréments, certes, mais la certitude écartait toute contestation compte tenu de la contre-manifestation organisée par le groupe Bari antagoniste. La journée s'est voulue avoir eu une célébration. Le cap franchi est historiquement et mérite d'être fêté. Même si l'événement a été plus sobre que prévu initialement. Avec une non-dit toutefois claire pour tous ceux qui ont afflué aux portes de Bari. C'est Fratelli d'Italia qui fête l'événement. Le gouvernement est celui de Giorgia Meloni. Les alliés, eux, ne sont que des fantômes. Le seul à s'être présent en personne est le leader des Noi Moderati, Maurizio Lupi. Les deux vice-premiers ministres, Matteo Salvini et Antonio Tajani, ne se sont pas montrés en personne, optant pour une intervention par visioconférence. Antonio Tajani a misé sur la stabilité et le pragmatisme du gouvernement, vantant l'unité du centre droit. Matteo Salvini a suscité des applaudissements en évoquant les regrettés Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, avant d'aborder le thème du souverainisme. La liaison était interrompue à plusieurs reprises et seuls des mots hachés sont parvus à la foule. Mais plus important, il est apparu plus qu'évident que personne à Bari ne regrettait la présence des deux alliés et que Fratelli d'Italia ne prouvait pas non plus les besoins de donner une image d'unité de la coalition. Celle-ci va désormais de soi et s'impose comme une évidence, d'autant plus que l'ombre du général fasciste Roberto Vannacci plane sur les alliés. Par rapport au temps d'il y a 4 ans, alors que l'exécutif est entré en fonction en octobre 2022, lorsqu'on demande si l'Italie a pris la bonne ou la mauvaise direction, 53% des personnes interrogées répondent mauvaise direction et 31% bonne direction, tandis que 16% se disent indécises. Ce n'est pas tout. 39% des Italiens jugent le travail du gouvernement moins bon qu'il l'espérait. Si la politique étrangère se sort relativement bien, le bilan est bien plus sévère concernant l'énergie, la santé et la fiscalité. Sur aucun des 9 thèmes abordés, politique étrangère et rôle international de l'Italie, immigration, économie et croissance, emploi et salaire, sécurité, justice, santé, importe aussi que coût de l'énergie et des fractures, les avis positifs ne recueillaient la majorité. Face au record de l'objectivité du gouvernement Meloni, qui dépasse celui du second gouvernement Berlusconi, 59% des Italiens estiment que la durée en soi importe peu et que ce soit le résultat obtenu qui compète. L'Italie, autrefois relayée par ses partenaires européens comme le pays du gouvernement instable et éphémère, voit aujourd'hui son gouvernement Meloni qualifié de bastion de stabilité par le journal Die Welt. Depuis l'arrivée du premier ministre Palazzo Chigi, souligne le quotidien allemand, elle a vu se succéder 5 premiers ministres français, 4 britanniques et 2 cancellieres allemands. C'est près de 4 ans de stabilité, constitué certes un résultat, mais surtout un étalon pour mesurer ce que Meloni a fait du temps dont elle disposait. La durée n'est pas synonyme de résultat. C'est sur cet angle que les jugements se font plus sévères. Et le pays résume les bilans en quelques mots. Selon le quotidien espagnol, Meloni a eu plus d'opportunités che si incone d'entreprendre le grandi riforme, ma se il principe projet de transformation du pays on est échoué. Qu'il s'agisse du fédéralisme, de la réforme de la justice rejetée par référendum ou encore des dossiers de retraité de la fiscalité. Le jugement du Financial Times est traversé par ces mêmes contradictions. D'un côté, la discipline budgétaire, la réduction du déficit, la relation avec Bruxelles, le soutien à l'Ukraine et la forte baisse des cartes de rendement, spread, entre les obligations italiennes et allemandes. De l'autre, une économie qui a progressé de moins de 1% au cours des 3 dernières années. En fin de compte, ces quelques 4 ans de stabilité apparaissaient aussi comme une occasion manquée de s'attaquer aux problèmes structurels de l'économie italienne. La chaîne SBC relève ce même constat à travers les propos de l'économiste Veronica De Romanis. La stabilité est inutile. L'objectif est la croissance et cette croissance n'est pas matérialisée. Meloni n'a pas mis à profit cette période d'une stabilité exceptionnelle pour agir sur la faible productivité, les dépenses d'éducation insuffisantes et la situation précaire des femmes et des jeunes sur les marchés du travail. Dans The Guardian, Le jugement s'est fait encore plus explicite sous la plume de la députée démocratique Lia Quartapelle. Ce gouvernement a gâché l'immense opportunité offerte par la stabilité, laissant sans réponse les problèmes de stagnation de la productivité et de la croissance, le retard des salaires et les difficultés du système éducatif. Le gouvernement se veut toutefois reconnaître une gestion budgétaire prudente. Après 1413 jours, le portrait du Meloni, vu de l'étranger, reste suspendu entre deux images. C'est celle des quatre longues années d'occasion manquée qui prédomine.
Merci. همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم
Il y a trois ans, Yashkin Kihani reprenait l'air de Bella Ciao pour marquer ce que les femmes iraniennes et le peuple iranien souhaitaient, le départ des mollahs, tout simplement.
Alors, je vais reprendre sur le thème que j'ai choisi aujourd'hui, à savoir les livres qui ont marqué mon enfance. Alors, certains l'ont certainement déjà lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que même en tant qu'adulte, il faut avoir lu, je pense, au moins une fois Alice au Pays des Merveilles. Qui a été publié, donc de Lewis Carroll, publié en 1865. Il n'était pas vraiment écrit pour les enfants, hein, au départ, hein, d'ailleurs. Donc c'est un voyage imaginaire, hein, d'une petite fille anglaise, avec des instants qui m'ont particulièrement marqué, j'y pense assez régulièrement. À un moment du livre, elle ne sait plus qui elle est. Donc elle va raconter des poèmes en se disant, bah, elle va essayer de se comparer avec les personnes qu'elle connaît, mais elle ne sait plus qui elle est. Donc elle essaie de raconter des poèmes qu'elle a appris par cœur, parce qu'on est défini aussi par les choses qu'on voit, qu'on apprend. Et puis les mots sortent déformés de sa bouche et c'est terrifiant. C'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment pour les enfants, je pense. Enfin, c'est aussi pour les adultes. Et un autre passage que vous connaissez sûrement si vous l'avez lu, où elle manque se noyer dans ses propres larmes. Je trouve que l'image est très belle. Et donc le premier extrait que j'ai choisi, c'est extrait du passage qui s'appelle « La mare de larmes ». Dans le livre, vous connaissez sûrement le dessin animé, Alice, elle grandit, elle rapetisse quand elle mange, ou elle boit différentes choses comme des gâteaux, des boissons, des champignons, avec les questionnements qu'on peut se poser. À un moment, elle est très 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 grande, elle pleure énormément, et elle redevient petite et elle manque de se noyer dans ses larmes. Donc c'est le passage, un court extrait du passage « La mare aux larmes ». Elle crut d'abord être tombée à la mer. Et dans ce cas, je pourrais rentrer dans un train, se dit-elle. Alice était allée au bord de la mer une seule fois dans sa vie, et elle en était parvenue à la conclusion générale que, où qu'on aille sur les côtes anglaises, on trouve toute une série de cabines de bain, que des chevaux tirent dans la mer, des enfants creusent le sable avec des pelles en bois, une rangée de pensions de famille, et derrière celle-ci, une gare de chemin de fer. Cependant, elle comprit bientôt qu'elle était dans la mare de larmes qu'elle avait versée lorsqu'elle mesurait près de 3 mètres. « Je regrette d'avoir pleuré autant, » dit Alice, tout en nageant dans l'espoir de sortir de l'eau. « Je suppose que ma punition sera vraiment de me noyer dans mes propres larmes. » Voilà pour le court extrait. Et donc le deuxième passage, c'est la rencontre avec la chenille. Donc là, à ce moment-là, elle est toute petite et elle a la taille d'un champignon. Donc c'est le chapitre 5 et c'est « Conseil d'une chenille » qui a la même taille qu'elle. « Elles se dévisagèrent en silence pendant quelque temps. Finalement, la chenille retira le narguilé de sa bouche et s'adressa à Alice d'une voix molle et endormie. « Qui es-tu, toi ?» Ce n'était pas un début encourageant pour une conversation. Alice répondit avec une certaine timidité. « Je ne sais pas vraiment, madame, pour le moment. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin, mais je pense que depuis, j'ai dû changer plusieurs fois. »«
Que veux-tu dire par là ?»
demanda sévèrement la chenille. « Explique-toi !» Hélas, madame, le moi que vous me demandez d'expliquer n'existe plus. Je suis une autre, voyez-vous? Non, je ne vois pas. Je regrette de ne pouvoir être plus claire, répondit Alice très poliment. Je suis la première à ne rien y comprendre, mais c'est très perturbant de passer d'une taille à une autre autant de fois dans la même journée.
Pas du tout.
Eh bien, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais dit Alice, mais quand vous devrez vous changer en chrysalide, un jour, vous serez obligée, vous savez, et ensuite... Vous changez en papillon. Je pense que cela vous paraîtra un peu bizarre, non?
Pas le moins du monde.
Eh bien, vous n'êtes peut-être pas de cet avis, mais je sais que moi, je trouverais ça très bizarre.
Toi?
Dit la chenille avec mépris. Mais qui es-tu, toi? Et voilà pour le second extrait.
Il courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. Elle apparut un soir par la cheminée. À son atterrissage, c'est lui qui est tombé. Cette première fois, le lapin se sentit douce. Imaginez que ce parachute une jolie blonde chez vous. Le programme improvisé respirait le bon parfum. Il l'emmènerait faire un tour dans le jardin. Des merveilles, et lui ferait savoir qu'un de ces soirs, il serait roi. Mais avant les premiers mots, arrivèrent les derniers. La profonde timidité fit son entrée dans le terrier. Le lapin entrevut le début de ses déboires. Tout se renversa lorsqu'Alice se mit à boire. Sa gourmandise était un vilain déformant. Au premier, ses jambes s'éloignaient du bois dormant. Après le deuxième verre, la petite prit le lapin de haut. Le quatrième verre annonça le rodéo. D'un coup, Alice rapetissa. De l'autre côté de la vitre apeurée, le lapin se tirafissa. Pas assez d'audace pour lui faire la couronner. Il préféra fuir en rêvant de la couronner. Elle s'appelle Alice. Elle voyage sans valise. La dernière chose qu'elle souhaite, c'est d'être assise. À présent assez grande pour attraper la clé fétiche. Forcément, la porte est devenue trop petite. Plus de lapin ni jardin, la voilà seule au monde. Privée de sortie, Alice dans ses pleurs inonde. On peut tomber longtemps, longtemps, mais surtout doucement. On ne fait que tomber longtemps, longtemps et doucement. Dans un gouffre ou d'un coup de foudre, on peut tomber longtemps, longtemps et surtout doucement. Il courait trop vite, elle l'avait suivi dès lors. Un long cache-cache devait commencer alors. On ne fait que tomber longtemps et surtout doucement. Ce que l'on prend pour de l'amour naît souvent d'un manque, pour ne pas dire toujours. tombe. Alors on tombe et se relève afin de retomber avec passion. Avec un chat sans tête, un tranchilapin, des narguilés d'été. Bienvenue au pays d'Alice.
Alors, un autre livre qui m'a marqué beaucoup quand j'étais enfant, c'est La petite fille aux yeux sombres de Marcel Pagnol, publié en 1921. Donc l'histoire se passe au début du 20e à Marseille. Deux amis ont 20 ans, Louis-Irénée Peluc et Jeanne-Jacques Panier. Donc ils se posent des questions sur l'amour. Est-ce que l'amour serait un piège selon l'un, selon l'autre? Ils n'osent pas trop se l'avouer. Et jusqu'au jour où ils rencontrent tous les deux, enfin, il ne rencontre pas, il observe une jeune fille, la petite fille aux yeux sombres. Donc c'est un questionnement sur l'amour, sur le sens de la vie, comme les livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est la première fois qu'il voit cette fameuse petite fille aux yeux sombres. Un mardi à 11h, j'allais attendre le philosophe à la sortie du jardin. En face du concierge, le flamand, la tête haute sous l'aile, dormait au bruit de l'eau. Et cet homme tranquille qui fumait sa pipe au soleil ne voyait point, dans ses pattes rouges, des temples énormes, un soleil splendide et la nappe du Nil hantée de crocodiles où glisse l'ombre d'un ibis. Le philosophe me tira de ma rêverie. « Roseau pensant, me dit-il, je suis heureux de te voir car j'ai quelque chose à te montrer. » Il mit son bras sous le mien et nous descendîmes paisiblement. « Il est 11h10, reprit-il. Dans 3 minutes... nous serons au boulevard Philippon. Dans 4 minutes, à moins que le Seigneur ne m'ait pris en grippe, tu verras, dans un décor moderne, un spectacle d'une grâce antique. Attends et tais-toi. Nous arrivâmes au boulevard Désiré. Il était presque désert. Seul, un homme assez corpulent venait vers nous. Sa présence parut irriter vivement mon ami Orle. L'important stupide, dit-il, l'imbécile suffisant. Le coup de tonnerre qui dispersait cette graisse impudente serait-il gaspillé? Ces injures ne me parurent pas en proportion de la faute de cet homme, mais comme il traversait la rue, le philosophe changea de ton. Non, dit-il, non, il est intelligent, c'est un intuitif, il comprend obscurément les choses, il est ventru mais délicat. Tiens, dit-il tout à coup, regarde, libraire, regarde, je regardais. Au bout du long couloir, gris, porté de platane, dans la limpidité du soleil, je vis une petite silhouette sombre sous la ganse noire d'un chapeau. Une jeune fille venait vers nous. Un manteau simple drapé ses belles lignes, son corps élancé et marquait à peine sa taille. Ses jambes minces, mais non point maigres, gonflaient les mailles de la soie et l'on sentait, au rythme facile de son pas, la souplesse des longs muscles neufs. Ô miracle de la grâce, les rails de tramway s'évanouirent, l'asphalte se fleurit d'érelle et de lavande, le bruit de la ville devint comme la rumeur grave des forêts, et je vis dans le péplos de Lens la Diane des anciens âges qui, sous la couronne de Ciste, dans l'amitié des matins grecs, marchait au flanc du Pentélique. La trompe insultante d'un Watman troua le tableau splendide. Un homme à la barbe indigente sorti d'une maison. L'immensité de ses pieds et la maigreur de son cou attestèrent le XXe siècle. Je ne vis plus rien qu'une rue stupide, un hideux réverbère en fonte verte et une jeune fille qui s'approchait de nous. Le philosophe me prit le bras. « C'est fini, pour aujourd'hui, » dit-il. Voilà.
Oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant.
Oh, mais c'est qu'il est très intéressant.
Laisse-le donc parler.
Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Oh, c'est pas gay, ça.
Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression.
Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression?
Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est vrai?
Oui, oui, absolument.
Eh bien alors, je commence.
Voilà.
La craque. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Hein? Oh, bravo, alors, ça c'est inouï alors.
La pitié.
Pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
Interrogatif et affirmatif.
Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée.
N'est-ce
pas?
Ah, ça c'est bien.
Et pensif.
Pensif. Tout condamné à mort tranchée.
Oh, ce n'est pas l'expression. Gardez l'expression.
Elle va bouger plus. Voilà.
Comique.
Le Spoons de Marcel Pagnol, tourné en 1938.
Voilà. Dans un texte de Patrick Denis. Un piano chémit une polonaise comme une embellie sur le transistor. Le chat serpent s'enroule sur la chaise, rétif au soleil qui perce au dehors. Le temps bat les heures de son cœur d'horloge. Le feu crépite dans la cheminée, lutinant le bois mort qui s'interroge. L'amour est cruel aux bûches piégées. Le café siffle comme la mémoire habite l'espace de son cri perdu. La pater martyre étend dérisoire la supplique de ses moignons chenus. Les skis sont posés comme deux virgules sur la page immaculée du crépi. Jouant les précieuses ridicules, la neige a snobé le fond de l'ennui. La lumière s'étire comme une casaque sur les froids têtus d'une fin d'hiver. Trois nuages blancs, comme des cosaques, vont à trop menu parcourant les terres. La petite mort de la solitude prend comme un brouillard le cœur de musicien. La guitare subit à l'assaut de l'étude en arpège obstiné et quotidien. Il naît un royaume étranger rebelle aux mains volubiles du vieux guitariste. La musique va, chavire et chancelle comme le soleil sur une améthyste. Le chant lourd des profondeurs du village, marquant de sa ride le front du désert. La musique pleure en bonne sauvage, sans ses larmes salées aux notes claires.
Géométriquement se côtoient les amants parallèles, transigeant avec l'aube, s'aiment comme des fauves irréels. Mais j'ignore tout de toi, d'où tu viens, où tu vas, qui te guide. On se partage à deux les jours qui sonnent creux la dérive. Cap, cap, au soleil, le pays des merveilles de tes lèvres. Voile mes mains tendues, caresse tes seins nus qui se lèvent. L'artimon de mon sexe, d'un mouvement convexe te pénètre. Goéland rouge et bleu s'allume dans tes yeux, en ton être. Marée de sel et d'eau, les petits animaux que je porte s'échappent de mon corps, le désir qui me tord les emporte. Matin, soleil, le vent réveille doucement l'habitude. Étrangers et meurtris, on reprend notre vie, solitude. Étrangers et meurtris, on reprend notre vie, solitude.
Alain Roux qui interprète du Patrick Denis sur l'antenne de Radio Libertaire. Radio Libertaire, tout à l'heure, ça sera à Bulle Noire avec, eh ben avec Romain Slocombe qui viendra non pas pour le troisième tome du quatrième trilogie des collabos et autres de l'infâme Sadorski, mais Romain Slocombe viendra quand même nous présenter son dernier roman qui parle d'une femme sous l'occupation. L'avantage d'une table ronde, c'est qu'une fois qu'on a fait un tour de table, on en est au deuxième tour. Aux élections, on dit au premier tour, on se fait plaisir. Au deuxième tour, on élimine. Là, au deuxième tour, on continue à se faire plaisir.
Alors, quelques pensées de Pierre Perret. Pauvreté n'est pas vice, ni versa. Celui qui rit comme un bossu et pleure comme une madeleine a intérêt à boire souvent pour ne pas se déshydrater. Il faut savoir ménager la chèvre et le chou quand on est bouc émissaire. Mieux vaut avoir l'âme chevillée au corps qu'une prothèse qui coûte les yeux de la tête. Il vaut mieux ne pas être manchot si vous voulez tirer les vers du nez à quelqu'un. Il vaut mieux ne jamais parler de son propre chef, même si on pense que c'est un sale con. Le type qui a le cœur sur la main et le cul entre deux chaises ne peut que finir à l'hôpital. C'est souvent quand quelqu'un est en train de prendre son courage à deux mains qu'il se prend les pieds dans le tapis. Elle est venue entre la poire et le fromage. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire faire le surlendemain par quelqu'un d'autre. Quand on n'a pas la tête sur les épaules, il faut savoir prendre les jambes à son cou. Il faut toujours garder une soif pour sa poire.
Merci.
Je poireautais près d'elle au même confessionnal. Je l'entends qui sanglote et je lui demande ce qui va mal. Les calots dans la flotte, la frite au bain-marie. Je suis dans le coltard, dit-elle, et c'est la faute à mon mari. L'or me serrant près d'elle, tendrement je m'enquis. Serait-il infidèle et vous ferait-il des courts-circuits? Au contraire, gémit-elle, c'est le papa édredon.
Et il y a des avanies quelque part dans sa soute à charbon. Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double file. Et vite fait sur le gaz, elle me fait Merry Christmas. Dépêche-toi, mon amour, elle a le feu au tambour. Elle me roule une dernière saucisse et le curé me fait à vous, mon fils. Midi et demi, elle sonne, elle se pointe en courant. Moi, peinard comme personne, je suis en train de becter mes harengs. Chérie, qu'est-ce précipite, je peux pas rester beaucoup. Faut que je m'en retourne vite faire la gamelle de mon époux. Elle me jette à la tête ses fringues en catastrophe. Je vois déjà ses mouillettes et les deux frères Karamazov. Pendant que j'ôte mes targettes, mes fumeuses à carreaux. Elle, elle est déjà prête, elle a plus que ses pinces à vélo. Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double file. Dépêche-toi, mon chéri, j'ai le traxir de mon mari. Dépêche-toi, mon amour, elle a le feu au tambour. Te plains pas, tant pis pour toi, il fallait pas y mettre les doigts. 10 piges de cette école, j'ai les éponges mitées. Je paume tout mon pétrole et mes fusibles font que sauter. Ému ma douce maîtresse par cette bérésina. Fait venir à toute vitesse un vieux toubib qui déclara. Pas besoin de faire de phrases, il est rapé foutu. Il a les batteries nazes et le starter qui répond plus. Dites-lui adieu d'un geste, ce sera le dernier. Elle me prit par la veste et me secoua comme un prunier. Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double file. Dépêche-toi, mon amour, au lieu de mourir tranquille. Vous les mecs d'alentour, si vous tombez dessus un jour, ne lui dites même pas bonjour, elle vous déballerait son discours. Dépêche-toi, mon amour, je suis garé en double file. Et vite fait sur le gaz, elle vous fera Merry Christmas. Dépêche-toi, mon amour, elle a le feu au tambour. Te plains pas, tant pis pour toi, il fallait pas y mettre tes doigts. Dépêche-toi, la 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 la.
El Rio. Je suis un fleuve. Je coule sur les larges pierres. Je coule sur les roches dures, suivant le sentier dessiné par le vent. Il y a des arbres aux alentours assombris par la pluie. Je suis un fleuve. Je coule à chaque fois plus furieusement, plus violemment. Je coule à chaque fois qu'un pont me reflète dans ses arches. Je suis un fleuve nocturne. Je traverse les torrents profonds, les villages inconnus, oubliés, les villes remplies de gens devant les vitrines. Je suis un fleuve. Je traverse les prés. Il y a des arbres aux alentours couverts de colombes. Des arbres chantent avec le fleuve. Des arbres qui chantent avec mon cœur d'oiseau. Les fleuves chantent avec mes bras. Nous sommes moins nombreux, mais qu'importe. Nous sommes armés et avons foi dans le peuple. Paysans, ouvriers, étudiants, le moment est venu de tous nous soulever pour semer dans la terre de notre Pérou une ville nouvelle avec nos machettes, nos fusils, nos faux et nos marteaux. Qui pourra nous arrêter, même si nous sommes moins nombreux maintenant, mais tous unis contre l'opposition qui gouverne? Javier Roux.
Et voilà, ça c'était notre Jean-Marie Blanche. Rappelons que Radio Libertaire fêtera bientôt, c'est combien, 45 ans, ça doit être quelque chose dans ces goûts-là, à l'espace Olympe de Gouges, dans le 11e arrondissement de Paris. Olympe au naturel, fille de Pompignan. Olympe universelle et fille de Montauban. Allez, à qui?
Il n'y a pas Jean-Marie non, Evine. Il n'y a pas d'Evine.
Après, peut-être, on verra. Mais là, je crois qu'il y a encore des textes.
Peut-être un texte à
lire. Moi, j'en ai plein.
Vas-y.
Je vais vous dire un. Donc, c'est un autre livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti. paru en 1886, donc, qui raconte la passion de Gaud pour Yann, qui est un marin pêcheur, donc ça se passe en Bretagne. Il part en Islande des semaines entières et c'est interminable. Et puis un jour, ils se rencontrent tous les deux et ils vivent une très belle histoire d'amour. Et puis elle l'attend parce que c'est une femme de marin. Et donc c'est la fin du... Enfin, c'est pas exactement la fin, mais c'est à la fin du livre. Et ça dit... À certaines heures régulières, la mer baissait et des taches s'élargissaient partout comme si lentement la manche se vidait. Ensuite... Avec la même lenteur, les eaux remontaient et continuaient leur va-et-vient éternel sans aucun souci des morts. Et Gaud, assise au pied de sa croix, restait là, au milieu de ses tranquillités, regardant toujours jusqu'à la nuit tombée, jusqu'à ne plus rien voir. Septembre venait de finir, elle ne prenait plus aucune nourriture, elle ne dormait plus. À présent, elle restait chez elle, elle se tenait accroupie, les mains entre les genoux, la tête renversée et appuyée au mur derrière. À quoi bon se lever, à quoi bon se coucher, elle se jetait sur son lit sans retirer sa robe quand elle était trop épuisée. Autrement, elle demeurait là, toujours assise, transie, les dents claquant de froid, dans cette immobilité, toujours. Elle avait cette impression d'un cercle de fer lui serrant les tempes. Elle sentait ses joues qui se tiraient, sa bouche était sèche, avec un goût de fièvre, et à certaines heures, elle poussait un gémissement rauque. Du gosier répété par saccades longtemps, longtemps, tandis que sa tête se frappait contre le granit du mur. Ou bien elle l'appelait par son nom très tendrement à voix basse, comme s'il lui était là tout près, et lui disait des mots d'amour. Il lui arrivait de penser à d'autres choses qu'à lui, à de toutes petites choses insignifiantes, de s'amuser par exemple à regarder l'ombre de la Vierge de faïence et du bénitier s'allonger lentement à mesure que baissait la lumière sur la haute boiserie de son lit. Et puis... Des rappels d'angoisse revenaient, plus horribles, et elle recommençait son cri en battant le mur de sa tête. Et toutes les heures du jour passaient, l'une après l'autre, et toutes les heures du soir, et toutes celles de la nuit, et toutes celles du matin. Quand elle comptait depuis combien de temps il aurait dû revenir, une terreur plus grande la prenait, elle ne voulait plus connaître ni les dates, ni les noms des jours. Pour les naufrages d'Islande, on a des indications. Ordinairement, ceux qui reviennent ont vu de loin le drame. Ou bien, ils ont trouvé un débris, un cadavre, ils ont quelques indices pour tout deviner. Mais non, de la Léopoldine, on n'avait rien vu, on ne savait rien. Ceux de la Marie-Jeanne, les derniers qui l'avaient aperçue le 2 août, disaient qu'elle avait dû s'en aller pêcher plus loin vers le nord. Et après, cela devenait le mystère impénétrable. Attendre. Toujours attendre, sans rien savoir, quand viendrait le moment où vraiment elle n'attendrait plus, elle ne savait même pas à présent, et elle avait presque hâte que ce fût bientôt. Aussi, il était mort au moins, qu'on eût la pitié de lui dire. Ou le voir, et tel qu'il en était en ce moment même, lui, ou ce qui restait de lui, si seulement la Vierge t'en priait, ou quelque autre puissance comme elle, il voulait lui faire la grâce pour une double vue, de lui montrer son Yann. Lui vivant, manœuvrant pour rentrer, ou bien son corps roulé par la mer, pour être fixé au moins, pour savoir. Quelquefois, il lui venait tout à coup le sentiment d'un voile surgissant du bout de l'horizon, la Léopoldine approchant, se hâtant d'arriver. Alors, elle faisait un premier pas irréfléchi pour se lever, pour courir, regarder le large, voir si c'était vrai. Elle retombait assise, hélas. Où était-elle en ce moment, cette Léopoldine? Où pouvait-elle bien être? Là-bas, sans doute, là-bas, dans cet effroyable lointain de l'Islande, abandonnée et miettée, perdue. Et cela finissait par cette vision obsédante, toujours la même, une épave éventrée et vide, bercée sur une mer silencieuse d'un gris rose, bercée lentement, lentement, sans bruit, avec une extrême douceur, par ironie, au milieu d'un grand calme d'eau morte.
Merci.
Lorsque dans nos vertes campagnes la nuit descend du sommet des montagnes sans bruit, malheur à toi qui dans nos plaines poursuis un voyage imprudent. Entends-tu des forêts lointaines sortir un long rugissement? C'est Han, c'est Han, c'est Han d'Islande. C'est Han, c'est Han, c'est Han d'Islande. Han, 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 Han. cet homme qui recèle une âme de fer et dont les yeux lancent la flamme d'enfer. Au fond de son antre sauvage, courbé sur un corps palpitant, ce monstre qui repaît sa rage de cris, de larmes et de sang. C'est Han, c'est Han, c'est Han d'Islande. C'est Han, c'est Han, c'est Han d'Islande. Han, 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 Han. Quand parfois au sein de la danse des jeux, tout à coup un homme s'élance hideux, si l'on ne peut le reconnaître, si de sa voix le sombre accent ajoute à l'effroi que fait naître son regard fixe et dévorant. C'est Han, c'est Han, c'est Han d'Islande. 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 Han, 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 Han.
Vous avez reconnu évidemment Jean-Luc de Baptiste, énorme, dans ce texte de Gérard de Nerval. On se retrouve... Ah, Sophie, toi, on te retrouve dans un mois, c'est
dans
ça?
Dans un mois, normalement, début octobre, oui.
Avec quoi comme
peut-être,
thème
peut-être un invité, une invitée.
Ariel, on retrouve la bande de Ariel Zalgiol la semaine prochaine.
On se revoit la semaine prochaine avec oui. Laurent. Mm-hmm. Voilà. Donc, des petits textes encore. Mm-hmm. Voilà. Et maintenant, Evelyne.
Voilà, ben, un petit dernier pour la route, non pas un coup de Blanche, mais un coup d'Evelyne.
Il est écrit à Lisbonne, le 14 mai. Puisqu'il faut bien vivre, continuer à rire, à respirer, manger, parler, marcher, marcher, ne pas rester immobile, au bord de la route, hébété, avec ce ciel immense sur les épaules. Puisque le sang remue encore, le cœur bat trop rapide, trop vite dans sa cage, puisque le vent siffle dans ce corps en déroute, puisqu'à l'intérieur tout s'est effondré, mais que je suis resté debout dans l'arrogance de la vie, puisqu'à présent le silence est cet ami étrange, puisque je suis au bord du monde, dans l'éternelle nuit étoilée. Alors les mots reviennent, petits cristaux sur l'huile noire, ils se soulèvent et jaillissent timidement, petites bouées où les naufragés respirent. Alors je suis revenu au premier des premiers temps, au plus ancien, au tout début, il y a des millénaires, au temps où tous les sens étaient en éveil, quand on était sans cesse aux abois, quand la peur était respiration, quand la vie au jour le jour était à gagner. Alors je suis revenu à l'instant, à la minute, à la seconde.
Et voilà, ainsi va donc se terminer pour aujourd'hui Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Comme je vous le disais, on se retrouve la semaine prochaine avec les invités, l'invité proposé par Laurent. Dans l'immédiat, effectivement, comme indiqué sur l'agenda de Radio Libertaire, voix sans Dieu, sans maître, sans publicité. Ah, c'est vrai, hein, 45 ans sans aucune pub sur l'antenne de Radio Libertaire. On n'a pas la longévité l'autorité du Canard Enchaîné qui lui publie ses comptes régulièrement. Mais on tient le coup depuis un bon bout de temps, effectivement. On n'est donc pas sous la pression de ceux qui nous diraient « Ouais, mais quand même, faudrait... » Non. Bon, je ne sais pas si on dit exactement ce qu'on veut sur cette antenne. Moi, il faudrait que j'arrête de dire des conneries. J'arrête de regarder la pendule en me disant « Je vais quand même pas lancer le générique de Bulle Noire avant. » Ben si, comme ça, on va pouvoir parler une minute de plus avec Romain Slocombe de son nouveau roman.
T'as bien capté Bulle Noire, du libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, du libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Radio Libertaire.
T'as bien capté Bulle Noire, du libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, du libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous recevons Romain Slocombe, comme l'a précisé, en tout cas annoncé le petit Nicolas. Un été de trahison, c'est ton dernier roman.
Pas le dernier, j'espère, mais c'est le dernier sorti.
Alors ça, c'est le grand truc. Alors est-ce qu'on peut dire, non, c'est pas l'ultime. Non, j'aurais dit l'ultime si c'était le...
Oui, ça, il vaut mieux dire ultime, si on veut dire ça, effectivement, mais quelquefois, bon...
Bon, oui, tu préfères préciser qu'il y en a déjà d'autres qui sont en route.
Voilà.
Donc c'est pas le dernier de ta life, quoi. C'est le dernier paru, voilà. Un été de trahison, c'est aux éditions du Seuil. Une histoire mettant en scène quatre femmes, dont une qu'on connaît un petit peu d'ailleurs dans les quatre.
Même deux d'ailleurs qui ont déjà été dans mes romans.
Bah d'ailleurs même on peut dire toutes. On va en parler dans quelques minutes parce que là le mystère est entier. Alors avant de commencer cette émission, il y a pas mal de décès. On va juste faire un petit hommage à quelques personnes qui viennent de décéder. D'une part l'illustrateur Claes qui nous a quittés.
Oui, Jean-Claude Claes. Ça m'a fait un choc parce que c'est quand même
pour tous ceux qui s'intéressent au roman noir, au polar, à l'édition de genre. Claes, c'est quand même quelqu'un dont on a vu les couvertures, notamment aux éditions Néo, les couvertures de polar en noir et blanc, toujours d'après photo, avec des clairs-obscurs très contrastés.
Et, il a fait les beaux jours de Néo avec camarade Jean-Michel Nicolet.
Voilà, tout à fait. Et curieusement, je ne l'ai rencontré que assez tard dans nos vies respectives, parce que j'aurais pu le croiser, je sais pas combien de fois quand je débutais dans l'illustration, et lui aussi. Mais en fait, je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années au salon du polar de Villeneuve-les-Avignon, dont il avait fait l'affiche, et au salon auquel il était associé, pas pour très longtemps, mais à l'époque il y était. Je crois qu'il s'est disputé avec eux. mais en tout cas, c'est là que je l'ai rencontré, et parce qu'il habitait pas très loin d'Avignon, et je crois que il y était depuis un bout de temps, et je pense qu'il a toujours, il a continué à vivre là-bas. Mais c'était quelqu'un d'abord adorable, d'une culture, d'une érudition. Enfin, on dit souvent ça dans les gens quand les gens nous ont quittés, mais c'est particulièrement vrai dans le cas de Jean-Claude Claes. Et puis c'est aussi quelqu'un qui avait un talent. Alors ses illustrations n'étaient pas mon style d'illustration, heureusement. Enfin, lui travaillait d'après photo aussi, mais d'une manière assez différente, mais très efficace, j'aimais beaucoup. Et mais il a également, vers la fin de sa vie, je vous le voyais publier des photos sur Facebook, etc. Et c'était également un très très bon photographe.
Bon, alors voilà un de chute, comme on dit. Alors, deux de chute avec Juliette Rabe. Alors, je ne sais pas si les auditeurs de Radio Libertaire